Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Ce matin, Charline et Juliette sont très fières de recevoir l'actrice Adèle Haenel. Très, très fière.
Non, mais tu réalises, c'est dans notre émission qu'elle vient. Moi, ça me fout une pression.
Ah, mais moi, j'étais sûre qu'elle irait plutôt chez Trapenard.
Ah, mais là, c'est un signe, hein, le vent tourne.
Fini, Augustin, qui se garde la crème des invités.
Oh, ça commence à suffire, ces gens de gauche qui partagent pas.
Et puis, mets-lui bien un taquet à l'antenne, hein. Adèle Haenel, c'est non par Jupiter, évidemment.
T'inquiète, le taquet, je vais mettre dans les questions, moi.
Tu prends une voix grave, tu dis n'importe quoi, et ça a l'air intelligent. Adèle Haenel, qu'est-ce que c'est pour vous le cinéma?
Ah non, mais attends, moi je fais des vraies questions, hein. Attends, écoute. Adèle Haenel, cette peintre femme qui réalise le portrait de votre personnage, est-ce la mise en abîme du regard de la réalisatrice sur vous?
Salut les filles.
Oh, Augustin.
Salut, ouais,
salut. Et t'es avec qui ce matin comme invité pour voir?
Ouais, vas-y, dis-nous un peu. Ouais.
J'ai reçu Céline Sciamma, formidable d'ailleurs.
Quoi? Ouais, c'est la réalisatrice du film dans lequel joue mon invité.
Notre invité, s'il te plaît.
Ah, vous recevez Adèle Haenel. Ah, c'est marrant. Adèle Haenel, je l'ai reçue à Cannes pour ce film justement. C'est un film magnifique, hein. Portrait de la jeune fille en feu, film essentiel, film fondateur, je crois qu'on peut le dire.
Ouais, ok, donc quand on reçoit l'actrice, toi t'as la réalisatrice, quoi. Non, mais je rêve.
Ouais, je sais pas, moi, vous n'êtes peut-être pas vous y prendre avec les attachés de presse.
Mais si, mais j'ai fait la méthode Balkany, je lui ai envoyé un panier garni la semaine dernière.
Ça n'a peut-être pas plu. Tu sais ce que ça mange, une attachée de presse au moins,
ah bah,
quoi.
Non, non.
Ah, bah, c'est le métier, ça, les filles. Bon, je vous laisse. Je dois préparer mon interview de Michelle Obama qui vient dans Boomerang.
Il a Michelle Obama, mais.
Et c'est pas du jeu, elle est même pas actrice! Il respecte rien!
Non, en fait, il est trop fort. Il sait même ce qu'il faut mettre dans le panier garni pour Michelle Obama.
Des frites!
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up de la radio publique. Donc voici la devise du jour, chacun pour soi et Google pour tous. Voici le contenu de la homepage. 30 ans après la chute du mur de Berlin, la réunification montre ses failles. L'élite de l'Ouest a été un tout petit peu condescendante en voulant modeler les Est-Allemands à leur image. Les jeunes tiennent à leurs différences culturelles d'avec l'Ouest et l'extrême droite progresse fortement.
Laissez-moi encore une heure pour vous convaincre que nous sommes des gens tout à fait civilisés.
La date de nos règles ne sont plus un secret pour Facebook. Pour peu qu'on utilise une appli pour gérer nos ragnoutes, nos données sont utilisées et le suivi de notre humeur vendu à des annonceurs. Aujourd'hui, on peut choisir d'avoir un mouchard dans la culotte qui pourrait au moins nous rendre service.
Je sais que vous avez un tampax sur l'oreille.
Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo?
L'actrice Kristen Stewart, ex Twilight, ex de Robert Pattinson également, révèle dans une interview qu'il lui a été conseillé de mettre en veilleuse sa bisexualité si elle envisageait de décrocher un rôle de super-héroïne dans un blockbuster. Bah oui, bien sûr! Que les choses soient claires, Superman n'a pas de slip à paillettes, et Batman?
Un petit message pour toutes les baltringues qui parlent dans mon dos. Robin, c'est pas ma meuf! On a rompu il y a 2 mois.
Juliette Arnaud, puisque vous êtes aux manettes avec moi, est-ce qu'on ne sous-traiterait pas les chroniques à des mecs?
Mais oui! Voilà une idée brillante.
Oui, vrai,
et pour se faire une belle équipe, tout en radicalité capillaire. D'abord, Hippolyte Girardot, ouais, qui nous prouvera à chacune de ses interventions que pour avoir du sang-froid, il faut avoir le front au frais.
J'ai rien compris, déjà, c'est formidable. Eh bien, moi, je vais vous parler de ce film, notamment de ses costumes.
Ah très bien, on est sur des costumes.
Par exemple, oui. Mm-hmm.
Parfait, ensuite nous aurons Guillaume Meurice.
Oui, c'est vrai.
Le seul mannequin au monde qui refuse catégoriquement de couvrir ses cheveux blancs, quoi. Ah oui, on me souffle qu'il n'est pas mannequin, ça doit être pour ça.
Ah voilà, je savais qu'il y avait une saloperie qui allait arriver. Bonjour à tous, à votre avis, je vais vous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais de Valois.
Évidemment, Patoche, pauvre Patoche Balkany, je suis allé à Levallois. Et les habitants ont des messages pour leur mère.
Vous nous manquez, Patrick, on vous aime très fort et tous les jeunes sont avec vous.
Voilà, bisous du collectif Les Jeunes avec Patoche.
Et enfin Thomas Croisière, celui qu'on ne pourra jamais accuser de vouloir se fondre dans la masse.
Oh, j'ai cru que vous alliez faire une blague sur mes cheveux, mais je vois que vous
avez
vu
les épargner. Si, mais je l'ai fait 3 pas derrière.
D'accord.
Ça va, on vous dérange pas, on peut savoir ce qui se passe?
Non, moi en tout cas, je vais en profiter pour déclarer ma flamme pour une jeune fille en feu.
Ah très bien, c'est celle qui va ambiancer notre open space. Je vous laisse annoncer à nos auditeurs que vous êtes là en vrai. Vous êtes.
Oui, bonjour, je suis Adèle Haenel et je suis là en vrai.
France Inter. Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Adèle Haenel.
Merci. Bienvenue, j'allais dire, mais non, merci.
Ouais, c'est votre émission, hein, donc en fait, on est un peu invité chez vous aujourd'hui. Car vous nous invitez au cinéma à voir Portrait de la jeune fille en feu, le film de Céline Sciamma qui sort en salle mercredi. Nous débarquons sur une plage de Bretagne au XVIIIe siècle avec Marianne, interprétée par Noémie Merlant. Marianne est peintre, chargée d'une commande. Elle doit réaliser le portrait d'Héloïse, votre personnage. Ce portrait est destiné au futur mari d'Héloïse, afin qu'il valide le mariage. C'était l'usage à l'époque. Mais Héloïse, qui refuse ce mariage, refuse de poser. Il faudra donc la peindre en loose day. Après l'avoir observée à la faveur de longues promenades, les deux femmes se plaisent intellectuellement, se séduisent, se plaisent physiquement. Et lorsque la mère d'Héloïse s'absente quelques jours, elles vont vivre une parenthèse de liberté dans cette société patriarcale et corsetée de l'époque. Jusque-là, est-ce que j'ai bon ?
Tout à fait.
Alors, Juliette, première question à Adèle Haenel.
Le titre du film, c'est Portrait de la jeune fille en feu. C'est un titre magnifique, certes, mais pour autant, c'est un titre tout à fait pragmatique. Cette jeune fille que vous incarnez, qui au début du film sort du couvent, qui est un peu hantée par le fantôme de sa sœur suicidée, petit à petit s'embrase. De quel feu, Adèle, ou plutôt de quel feu au pluriel?
Je sais pas, je pense que c'est un personnage qui au départ, a compris qu'on le considérait comme un objet, c'est-à-dire que voilà, on a préservé sa valeur dans un couvent, on va utiliser cette valeur dans un mariage. Enfin, c'est le destin de quand même pas mal de femmes, et qui en fait s'embrasse parce que simplement il est vivant. Donc effectivement, on peut parler d'embrasement métaphorique en parlant de l'amour, de l'excitation pour les débats d'idées aussi, enfin que vous connaissez, j'imagine, et ce genre de jubilation là qu'on peut associer, enfin voilà, à cette dynamique de feu. Et puis après, il y a très concrètement, puisqu'on prend les choses au sérieux, une image de personne. Enfin, je prends. Effectivement, feu dans le film.
C'est vrai. Voilà. Délibérément.
Délibérément feu, oui.
Quand la maman, interprétée par Valeria Golino, s'absente quelques jours, s'ouvre donc une parenthèse de liberté. C'est une parenthèse où les jeunes femmes vont pouvoir s'aimer, rigoler, débattre intellectuellement, parler d'art, etc. Mais aussi affronter une question lourde, parce que la jeune servante est enceinte et voudrait avorter.
Oui.
Et donc cette parenthèse de liberté est une parenthèse très ambivalente à la fois de paradis et d'enfer, en réalité, c'est ce qui en fait un peu un joli manifeste.
Effectivement, en fait, quand je veux dire là, on a tendance à dire oui, mais effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la joie d'être en vie, en fait, de s'autoriser à vivre. Et peut-être ça peut parfois dans un destin de femme, ça peut sembler exceptionnel, en fait, ces moments où on est en vie. Je dirais pas tout le temps, mais je veux dire, ça, effectivement, on peut s'imaginer dans une société ultra patriarcale où on est vraiment séparés les unes des autres, notamment. Ouais. Voilà, donc ça veut pas dire que c'est pas parce qu'il y a cette joie là qu'il y a pas aussi, en fait, c'est le moment où on débat sincèrement de ce qu'on croit, des enjeux aussi liés à l'art. Comme je vous ai dit, par rapport à qu'est-ce que c'est que de faire un tableau, couche après couche, parler des couches du travail. Et puis effectivement, en fait, de prendre en charge qu'est-ce que c'est le personnage joué par Louana Bajrami, effectivement, est enceinte et souhaite avorter. Et effectivement, prendre en charge cette question dans toute son ambivalence, c'est-à-dire à la fois le fait que les femmes peuvent disposer de leur corps et aussi potentiellement ce que ça implique sentimentalement, qui est évidemment pas neutre et qui est évidemment aussi... Une forme de douleur, quoi.
Et ce qui donne à voir aussi à l'époque, quelle méthode on employait pour essayer de ne pas en venir aux aiguilles.
Oui, il y a pas
ça
mal
passe
de...
partout les...
Bah, disons qu'après, je
choses parfois...
Effectivement, il y avait des plantes qui permettent l'avortement. Il y a pas mal de femmes qu'on a notamment qualifiées de sorcières parce que justement on avait cette connaissance des herbes. Après, il y a aussi des techniques où, voilà, juste...
Le footing.
Voilà, d'essayer de décrocher
de pendaison, de tous les extrêmes qu'on peut imaginer, c'est pas vrai, de douleur. Juliette Arnaud?
Il y a une chose très ambivalente dans le film, c'est à la fois l'histoire d'un amour, et moi, ce qui m'a semblé y voir, mais on n'était pas tout à fait d'accord avec Hippolyte, c'est aussi l'histoire d'un renoncement à l'amour.
Je comprends. Enfin, après, je vais pas imposer ma lecture. Enfin, se dire
qui a raison entre Hippolyte et on a besoin d'en virer un.
Je préférerais que ce soit moi.
Oui.
Non, mais votre lecture nous intéresse.
Oui, ouais.
Non, je pense que, enfin, moi, je le vois comme effectivement, en fait, c'est quand même cette. Le film parle d'un amour possible. Parce qu'on a repoussé à la frontière du film les impossibles, on a repoussé la société patriarcale, on a repoussé le mariage, on a repoussé tout ça à la frontière du film, sauf que on sait effectivement que c'est le destin de cette fille d'être mariée. Mais donc je veux dire, pour moi, la façon de l'amour, il est vécu, et en même temps, même dans sa fin, il est accompagné, en fait. Je veux dire, ça a changé chacune des deux filles, dans leurs histoires et dans leur façon de vivre. Ça les a, si vous voulez, ça les a même allumés quelque part, donc ça les quittera jamais. Donc oui, effectivement, c'est un amour sous une forme qui a une fin, mais c'est les échos infinis de cet amour en nous qui vont passer, bah, justement, quand... je ne peux pas dévoiler la fin du film.
Voilà. Non, ne dites rien, il faut absolument aller le voir.
C'est un amour au présent qui est toujours présent.
Voilà.
Ça plie. Je l'attends.
Comment poser une question derrière cette sentence, Thomas Croisière ? C'est un peintre, femme, qui observe son modèle, et une réalisatrice qui observe son actrice aussi.
Et une actrice qui observe aussi sa réalisatrice.
Oui, quand même. C'est ça. Parce qu'on se rend compte que le modèle observe aussi la peintre, et donc il y a une mise en abîme, il y a un jeu de miroir. Est-ce que vous, l'actrice Adèle Haenel, quand vous jouez, vous essayez de vous affranchir de ce double regard, de ce double miroir, ou vous vous appuyez dessus pour jouer ? Peut-être j'intellectualise beaucoup, mais c'est
non, je suis désolée, j'étais pas sûre d'avoir tout à fait saisi, mais je pense que j'ai saisi quand même.
Faut dire oui dans ce cas-là.
Oui, interprétez la question comme vous le voulez.
Non, je pense que dans l'idée de quand même du scénario que donc Céline Sciamma a écrit, c'était quand même de parler de la collaboration artistique. Et c'est vrai que on le voit, c'est-à-dire que le film parle de cette question-là, de l'échange, et fait une sorte de sort à la condition de la muse, qui serait une inspiratrice passive du regard de l'artiste qui est principalement masculin. Là, en l'occurrence, c'est une femme, mais je veux dire, en tout cas, c'est pour dire, en fait, ce qui se passe, c'est pas juste que la personne entre dans la pièce et qu'on se dit, mon Dieu, j'ai plein d'idées dans la tête d'un coup, c'est juste, en fait, c'est parce que la personne a des interactions, parce qu'elle va discuter, elle va remettre en question même les points de vue du peintre ou de la personne qui est officiellement artiste, que la collaboration a lieu et que peut-être l'artiste peintre, en tant que tel, bah, va plus précisément au cœur des questions et au cœur des enjeux de sa peinture. Donc il s'agissait de ça, c'est pour ça en fait, faut vraiment, je trouve le film vraiment parle de la réciprocité des regards et de l'échange intellectuel qui part certes d'un point de vue du peintre mais aussi du point de vue du modèle, et on peut faire la parallèle évidemment entre le travail de réalisateur et d'acteur, quoi.
C'était bien ma question et votre réponse était bien mieux formulée que ma question à moi. Je vous renvoie donc au film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma qui sort en salle mercredi avec Noémie Merlant, avec Louana Bajrami, Valeria Golino, Christelle Barras, Armande Boulanger et Guy Delamarche, parce qu'il y a un homme ou deux au début et à la fin du film, et c'est bon de voir un film de femme. Ouais, carrément.
Alors c'est quoi que j'appelle? Chaque fois je remets ça, un, deux, trois, ça remet.
J'étais en train de dire attention, on arrive. Et j'étais à l'antenne. Oh. Ouais, bien sûr. On se chauffe encore, c'est la rentrée. Vous écoutez France Inter par Jupiter en compagnie d'Adèle Haenel, venue nous parler du film de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, qui sort en salle mercredi, que nous avons adoré. Qui va le chroniquer tout à l'heure?
Oh, mais c'est Thomas Croisière.
C'est pas vrai.
Mais bien sûr. Mais il y aura également Hippolyte Girardot. Uh-huh. Et bien sûr, il y aura Guillaume Meurice.
Désolé.
C'est pas qu'on ait envie.
Qui déjà va présenter les informations.
Oui. Ben oui, c'est sérieux. Quoi. Allez.
Condamné.
Je fais appel.
Vous êtes condamné après l'appel ?
Après l'appel, il y a la cassation.
Et après la cassation ?
Il y a la Cour européenne.
Et après la Cour européenne ?
Je prendrai ma retraite.
Le journal de presque 17h17.
Il va bien ?
Il est en prison.
Ah, il est en prison ? Ah oui, prisonnier quoi. D'accord.
Salut Patrick !
Et on commence par les titres.
On parlera de la fête de l'humain qui s'est déroulée ce week-end.
Oui, il sera donc question de merguez et de saucisses.
On évoquera aussi Nicole Belloubet.
Et il sera donc question de tartuffe et de justice.
Et enfin, on parlera de Nadine Morano qui s'est lâchée sur LCI.
Et il sera donc question de la Suze et de pastis.
Donc on commence avec Isabelle Balkany qui n'a pas pu être incarcérée en raison de son problème de santé.
Et oui, on l'a vu très malade lors de son bain de foule à Levallois. On l'a vu malade sur France Info également, malade, très très malade sur BFM TV. Malade ce soir quand elle présidera le conseil municipal de Levallois.
Retrouvez-la aussi donc malade dans Top Chef demain soir, malade dans Danse avec les stars samedi avant son départ malade pour Koh-Lanta la semaine prochaine.
Elle était aussi chez Pascal Praud, très très malade hein, ce matin. Elle a assuré à propos de son mari.
Je peux vous le dire, je peux parler en son nom. Ni mon mari, ni moi, n'avons jamais été corrompus de quelque manière que ce soit.
Voilà, ils n'ont jamais été corrompus. Voilà, pas du tout, d'accord ?
Oui, mais eux, ils ont corrompu des gens, non ?
Ah oui ! Ah mais non, mais ça n'a rien à voir. Eux, en tout cas, n'ont pas été corrompus.
D'accord, voilà. Nous voilà rassurés. C'est donc, justice toujours. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, était hier sur LCI et quand on l'a interrogée sur la proximité entre l'État et les procureurs, elle a déclaré...
Cela, je le dis à mes procureurs aux procureurs.
Oui, voilà. Moi aussi, moi, je suis complètement indépendant de mes valeurs de gauche. Des valeurs de gauche.
Effectivement. Politique toujours, oui. Selon Le Figaro, Emmanuel Macron utilise une application pour contrôler l'efficacité de ses ministres.
Oui, sauf pour Jean-Yves Le Drian, pour lequel il utilise un Minitel.
Évidemment. Politique encore, c'était donc la fête de l'UMA ce week-end et Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, a prononcé un discours très inspiré face aux invités.
L'union. L'union, l'union, tout le monde en parle, mais il faut la faire. Et ici, à la fête de l'UMA, on en a même dans nos assiettes. On peut manger des sandwichs, salades, tomates, union.
Hein, c'est magnifique, on a l'impression que les électeurs communistes se sont barrés avec l'humour.
Oui,
en fait, tout simplement.
Moi j'avais sandwich jambon chômage.
Oh c'est beau Charline, les grosses têtes, on arrive.
Média à présent, hier c'était dimanche et c'était aussi l'occasion d'inviter à déjeuner votre tata qui picole un peu trop. Et c'est ce qu'a fait Sud Radio en conviant Nadine Morano.
Oui, elle est revenue sur la présence des danseurs à l'Élysée lors de la fête de la musique.
Mais quelle décadence, enfin moi je trouve ça mais dingue.
Oui, voilà, Nadine, elle est perdue. Où sont nos repères hein ? C'est vrai que Nadine, quand on l'entend parler, on a l'impression d'être au 14e siècle. On est perdu.
International, élection présidentielle en Tunisie, Nabil Karoui, le candidat qui est en prison, serait qualifié pour le second tour.
Oui, Richard Ferrand vient de demander la nationalité tunisienne.
Quant au président turc Erdogan, il reçoit aujourd'hui ses homologues russes et iraniens, Poutine et Rouhani.
Une belle réunion. Il en manque juste un pour faire une belote.
Ouais, je propose Pol Pot.
Non, il est mort.
Ah, alors Kadhafi alors ?
Il est mort aussi.
Ah mince, alors qu'est-ce Bouteflika. Allez, on termine ce journal avec une nouvelle qui nous vient de Chine. Une femme met au monde des jumeaux et les vend pour s'acheter un smartphone.
Et oui, c'est pas nouveau. Véronique Courgeot avait fait pareil pour s'acheter un nouveau congélo.
Bien sûr. Ouais. 17h26 à Paris et à Montreuil. Vous écoutez par Jupiter en compagnie d'Adèle Haenel. Vous avez des yeux comme des soucoupes. Je dis parce que je suis tombée. Adèle Haenel avec nous. On va aborder ce premier sujet avant d'écouter la chronique d'Hippolyte Girardot. Nous fêtons bientôt les 30 ans de la chute du mur de Berlin. C'était le 9 novembre 1989. Aujourd'hui, la division Est-Ouest perdure et l'extrême droite progresse à l'Est, car les promesses n'ont pas été tenues. Le Courrier international a choisi une couverture qui pique un petit peu pour illustrer cette Allemagne qui se radicalise, une famille de blonds un petit peu trop propre sur eux, où maman est en haut qui fait du gâteau, papa est en bas qui tient un fusil de chasse. Manquerait plus qu'il morde, hein, parce que déjà il chante.
Pendant le pas.
pense qu'on peut y aller. J'aime mon pays. C'est Sexy Sushi sur France Inter. Alors, Adèle Haenel, vous avez 30 ans.
Oui.
Le mur est tombé 10 mois après votre naissance. Vous pratiquez l'allemand.
D'après Wikipédia, oui, mais un peu moins.
Ah,
en fait.
C'est vrai ?
Mais oui, bon, peu importe. C'est pas... Je garderai ce mystère pour moi.
D'accord, gardez une part de mystère. Vous pratiquez l'allemand, vous avez tourné en allemand. Alors, est-ce que Wikipédia a raison ou est-ce que votre papa est autrichien ?
Oui, oui, absolument. C'est
ce tropisme-là, en tout cas.
Dis pas juste n'importe quoi, Wikipédia. Aussi
est-ce que le mur de Berlin est tombé, d'ailleurs? Est-ce qu'on a vérifié? Parce que Wikipédia dit ça. Oui, mais... à voir.
Alors, est-ce que ce bagage, cet intérêt que vous avez, en tout cas pour la langue allemande, déjà, ce bagage vous a rendu attentive, plus ou moins, à ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne? Je vous avoue que nous, en découvrant le dossier du Courrier International, on n'imaginait pas à quel point il y avait encore autant de différences et les désillusions à l'Est, etc.
Je suis pas non plus experte, hein. Enfin, je veux dire, effectivement, je m'intéresse, à l'Allemagne, dans les propositions culturelles qui sont faites.
Et comme citoyenne, quoi.
Mais après, je saurais pas vous dire, franchement, il se trouve que quand j'ai repris des cours d'allemand, j'ai appris à Dresde, qui en fait est donc vraiment à l'est. Et c'est une ville qui a été le point de départ du mouvement Pegida. Donc, c'était vraiment intense comme. Je vois que c'est une vraie question en Allemagne, mais après, franchement, je pourrais pas vous dire.
Vous l'avez palpé, en fait, sur le moment.
Du coup, là, c'était difficile de ne pas, puisque le mouvement était en cours et que j'y étais que avec des gens qui apprenaient l'allemand, donc qui par définition étaient étrangers. Donc, forcément, c'est un peu, voilà.
Juliette?
Vous avez tourné il y a quelques années de ça, donc, avec un réalisateur qui s'appelle Chris Kraus, qui est également auteur, enfin, écrivain, et, donc, un film qui s'appelle Die Blumen von Gästen.
Voilà.
Les fleurs d'hier. Voilà.
6 ans d'allemand, Juliette, quand même.
6 ans d'allemand.
Félicitations.
Non, je me disais, mais c'est Die Blumen ou Die Blumen? Non, c'est Die Blumen. Et qui est une comédie.
Non, je sais pas. Non. J'ai fait espagnol. Alors
mais c'est un nom commun. Donc une comédie romantique en allemand sur l'Holocauste. Bon, dit comme ça, on se dit
oui,
voilà.
Non, on se dit juste que c'est dans le coup.
Absolument pas, en fait. Il n'avait rien à voir avec ce projet, mais c'est juste que, en fait, l'auteur, comme vous l'avez dit, Chris Kraus, est en fait historien. Donc il est très, c'est un chercheur par rapport à l'Holocauste, quoi. Et du coup, il est très documenté, donc sa position satirique n'est en aucun cas dévalorisante. Enfin, ne minimise absolument pas la catastrophe que c'est.
Non, puis en plus, il a un vrai talent tragicomique. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tourné donc en langue allemande.
Oui.
Ce qui est quand même pas commun pour une
actrice française. Ouais, non, c'était difficile. Parfois, je comprenais pas bien ce que je disais. Mais... après, j'ai compris parce que j'ai continué à apprendre après. Je me suis dit, ah, c'est ça que ça voulait dire. Sur le moment, j'ai dit le truc comme ça, quoi.
Oui. Ah oui, il y a des passages que vous avez fait phonétiquement.
Non, mais sur des détails de mots, je veux dire, grossièrement, je savais de quoi je parlais quand même. Je savais bien que j'étais pas en train de dire une recette de cuisine, mais je veux dire, c'est juste que, j'avais pas dans toute sa précision parfois certains mots.
En France, les Français ont souvent un énorme préjugé vis-à-vis de la langue allemande, qu'ils trouvent laide, brutale, grossière. Je suis sûre que pas vous.
Oui, non, effectivement.
Et pas seulement parce que votre papa est autrichien, mais.
Non, c'est une langue qui, en fait, c'est très intéressant de s'intéresser à. C'est-à-dire, c'est très intéressant de parler une autre langue, notamment pour des questions mélodiques. Et dans le cas du jeu d'acteur, c'est vachement bien parce que ça permet de se décoller des évidences mélodiques de sa propre langue et de réussir à mettre des accents toniques à différents endroits. En fait, en allemand, les phrases ne tiennent pas si on n'a pas une idée vraiment précise de ce qu'on dit. Vous voyez, en français, il y a une espèce. En fait, on est assez monocorde en français. Et en fait, en allemand, c'est vraiment genre les tensions sont quasiment géométriques dans les phrases. Et en fait, le fait de devoir s'entraîner à ça, ça aide pour le français aussi, incroyablement. Surtout pour quelqu'un comme moi qui parle vraiment très vite.
Non, pas autant que ça. Pas autant que nous, vous inquiétez pas. Adèle Haenel avec nous, qui présente Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, qui sera en salle mercredi, avec notamment Noémie Merlan, Louana Bajrami ou Valeria Golino. Hippolyte Girardot, prenez ce micro.
Ouais, je le prends. Et qu'est-ce que... Sinon, mais c'est très bien expliqué, Adèle, cette histoire de langue, c'était super intéressant.
Ah bah merci.
Sur la géométrie dans les phrases. Hein, Guillaume?
Il y a peu d'acteurs ou d'actrices français qui jouent en allemand quand même.
Donc je vais vous parler de votre film. Alors on a dit
d'accord.
Que c'était un film d'amour, un film sur le désir, le renoncement, un film sur la création. J'ai entendu un film LGBT. Oui, d'accord, mais non, en fait, non. Vous avez fait un grand film anticapitaliste. Voilà, alors comment le portrait de la fille en feu va se poser au fil du temps? Parce qu'aujourd'hui, on dit c'est le film de la semaine, voire on dit aussi c'est le nouveau film d'Adèle Haenel, voire on dit aussi c'est le nouveau film d'Adèle Haenel avec Céline Sciamma. C'est une petite catégorie pour le moment, oui, mais ça peut s'agrandir, parce qu'on voit bien dans le film tout le plaisir, la difficulté qu'a la peintre à faire le portrait de son modèle, qui est une métaphore limpide de la volonté de Céline Sciamma à nous dire la beauté d'Adèle. Et un portrait n'est jamais fini, évidemment, puisqu'il doit à la fois dire la vérité et le mensonge, dire l'instant qui passe et l'éternité de nos vies. De quoi nourrir encore beaucoup de films. Mais ce portrait pourra aussi se retrouver évidemment dans la catégorie bien évidente du film de costume. Les films à costume sont un peu au cinéaste ce qu'une prison de 9 mètres carrés peut être d'un fraudeur fiscal. C'est-à-dire un passage obligé qui vous offre une légitimité nouvelle, une sorte de labellisation supérieure, ce qui arrive à ton ami Patrick en ce moment. Et en plus, le film de costume se retrouve directement dans la catégorie où l'on croit ce qu'on appelle les classiques. Barry Lyndon, Le temps de l'innocence, Les liaisons dangereuses, Sissi impératrice, Du beau monde, De la belle lumière et des beaux costumes. Ah, les beaux costumes. Non mais c'est carrément une blague, parce que pour le César, par exemple, des costumes, il faut faire de l'époque. Il n'y a pas un César des costumes pour un film contemporain depuis la création des Césars en 1980. Pas un. Tous les Césars des costumes sont pour des costumes d'époque. Et à ce propos d'époque, j'ai lu un truc que Céline Sciamma dit dans le dossier de presse et qui dépasse la simple magnificence annoncée du film d'époque. Elle dit « Je voulais absolument que Marianne ait des poches, par exemple. »
La peintre, pour la... Donc. Hein? Marianne est la peintre. Dans
la peintre, merci, oui. Je voulais absolument que Marianne, la peintre, ait des poches, par exemple. Pour l'attitude, mais aussi parce que les poches féminines vont être sanctionnées à la fin du siècle et disparaître. J'aime l'idée de cette silhouette si moderne qui est réhabilitée comme ranimée. Alors cette remarque, moi je trouve géniale, place d'emblée le film dans une autre catégorie qui est le film à costume féministe, donc anticapitaliste. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant qu'un d'un seul coup, non? Et Céline Sciamma a raison. La poche dans le costume féminin, ne croyez pas que ce soit anecdotique, pas du tout. C'est même un putain de marqueur du capitalisme de masse masculin et misogyne. On va pas y passer deux heures, après on va me dire que je parle chiffon, alors qu'on est le fer de lance de la pensée gauchiste d'avant-garde humoristique, une catégorie qui est assez rare quand même, faut le dire aujourd'hui. Mais si la poche a disparu des robes féminines au fil du temps, c'est par soumission au diktat masculin. Car à quoi servent les poches? Bah à mettre des trucs dedans. Parce que si tu mets pas tes trucs dans les poches, tu les mets où? Bah tu les mets dans un sac. Bien sûr, tiens cette blague. Et un sac, est-ce que t'es en train de me dire que s'il y a pas de poche, t'es obligé d'avoir un sac? Est-ce que t'es pas en train de me dire, là, en train de m'inventer un putain de marché colossal sur la maroquinerie, là, sans déconner? Est-ce que t'es pas en train de me trouver une grosse cash machine avec la suppression des poches? Effectivement. Parce que quand on fabrique en France 11 millions de sacs à main pour un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, tu peux comprendre que s'ils vous ont enlevé les poches, mesdames, c'était pour mieux vous les faire, oh. Les poches.
Eh oh là, ouais. C'est brillant. Bien joué.
Bien joué.
Incroyable. Et comment on devient le deuxième plus gros pollueur mondial en créant des sacs alors qu'on avait des poches?
Exactement.
Hippolyte Girardot, vous avez eu cette lecture du film?
Moi, je pense que oui, le film est. Enfin, je sais pas, la lecture anticapitaliste, là, je la laisse à Hippolyte. Oui, je veux dire, je suis pas forcément. Je sais pas, en fait, j'ai juste pas réfléchi à ça. Je pense que le film est féministe, effectivement, mais parce qu'il propose un imaginaire. Enfin, un imaginaire sensuel, intellectuel. Érotique même, enfin nouveau en fait, et que en ça il a lié
inventif.
Pour moi. Ouais voilà.
Adèle Haenel, donc le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma sera en salle mercredi, les amis. On vous encourage à aller le voir. On va en reparler tout à l'heure avec Thomas Croisière. Vous êtes sur France Inter, par Jupiter évidemment. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. Well, it's not for a price, and it's not to be nice. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She wants to be your James Bond. She might stand in your way, but still she'll save the day. She wants to be your James Bond. Nuts melt in her mouth, but not in her hand. No need to figure it out. She just likes M&M's. To the taste. Wants to Be a James Bond, Iggy Pop. À mon avis, Chewbacca, c'est pas par hasard qu'il a programmé pour nous aujourd'hui.
Qu'il est malin, ce Chewbacca.
Il est très malin. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Adèle Haenel est en notre compagnie. Tiens, comment est-ce que le film Portrait de la jeune fille en feu est reçu par les hommes?
Tous les hommes voulaient autant qu'ils sont, si t'as de milliards qu'ils sont. Je sais pas, en fait. Enfin,
est-ce qu'il y a une différence de perception dans la...
Je pense qu'il y a quand même une différence de perception. Il doit y en avoir une. Enfin, je veux pas parler, permettre de parler donc au nom de ce tas de personnes.
Éric Zemmour a adoré, il a dit.
Ouais. Quelle angoisse. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'effectivement, pour les femmes, il y a un truc de genre d'une représentation manquante en fait qu'on ressent juste dans nos tripes quoi. C'est juste c'est ça aussi potentiellement qu'on ressent. Mais après, franchement, les retours sont quand même très bons et le film en fait propose cette expérience de vivre au travers des yeux d'une femme. Mais c'est une expérience qui, à mon avis, du coup, d'autant plus intéressante pour
bien
un
sûr.
Homme
et universelle de toute façon. Guillaume Meurice, en parlant d'universalité, oui. D'intellectualisme.
Je vous propose une autre expérience aujourd'hui.
Bah oui.
Hein, parce que voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ben c'est l'émotion hein, qui l'emporte, bien sûr. Patoche est tombée. Et on a beau en rigoler, ça fait quelque chose. On est tous, qu'on le veuille ou non, des enfants de Patrick Balkany. On a tous grandi avec son parcours judiciaire. Hein, à Levallois, les premiers mots des enfants, c'est pas maman ou papa, c'est « mise en examen !» Voilà, alors on est triste. Moi, j'ai moi-même la gorge serrée pour vous parler voilà aujourd'hui. Je préfère donner la parole à son peuple, le peuple de Levallois, qui est en lutte pour la liberté, en lutte pour la vie. Des manifestations étaient organisées samedi et dimanche devant la mairie. Je vais vous dire, ça fait 5 ans que je fais des chroniques ici. J'ai jamais ressenti ça. Voilà. Regardez, rien que d'en parler, ça me fout les poils. En tout cas, le Nelson Mandela des Hauts-de-Seine n'est pas seul. Il a le soutien des habitants et des habitantes mesurés qui savent relativiser.
100% une injustice. Je trouve ça horrible, complètement dégueulasse. J'espère que celui qui l'a jugé, qui se regarde bien dans une glace, qui se regarde bien dans une glace le matin avant de se lever, il verra le sale regard qu'il peut avoir. Parce que faire du mal à un homme comme ça, moi je trouve que c'est pas normal. Il doit avoir quelque chose contre lui. Il ne sait même pas ce qu'il a jugé. J'en suis sûre. Mais il est qui, lui, pour décider? Il n'y a rien par rapport à Balkany. Pour moi, il n'y a rien.
Bah, il est juge, quand même.
Pour moi, il n'y a rien.
Non, pardon, il n'y a rien. Vous avez vu comme j'ai peur, quand même. C'est vrai qu'on ressentait quand même voilà, l'angoisse, la tension. Pardon, donc j'en perds mes réflexes. Il n'est rien, ce juge bolchevique à la solde de Moscou, payé par Thomas Legrand. C'est un scandale. D'ailleurs, parlons-en des juges.
De toute façon, les juges sont des minables. Celui qui a choisi d'être fonctionnaire 24 ans, c'est vraiment pas un élément bien brillant.
Tous les fonctionnaires sont des minables ?
Disons à 90%.
Oui, c'est à peu près les chiffres que j'ai aussi. Et encore, j'ai pas compté les techniciens de Radio France. Hein. Sinon, on monte à 102% assez rapidement, selon l'Institut Ipsos Neuilly-Levallois-Medef, réalisé comme ça un peu au doigt mouillé, sur un échantillon de minables. Donc. Mais ne nous énervons pas, le temps est à l'hommage.
Ben, j'espère que...
Qu'il reviendra bientôt.
Qu'il va se sentir habitué. Hein.
Ouais.
Et puis après, on verra, hein, si vous voulez. Hein. S'il résiste, s'il a la santé.
Ah ben là, il est à la santé.
Ouais.
Bah, j'ai essayé la méthode Thomas Croisière qui organise des karaokés dans les enterrements. Voilà, mais là non, ça ne passe pas du tout, le mal est trop profond. Patrick est en prison, soi-disant, parce qu'ils avaient peur que Patoche s'échappe. Une thèse qui ne tient pas, selon ce monsieur.
Qui s'en aille à l'étranger, il pouvait pas déjà, il avait pas de passeport depuis 5 ans, je crois, hein, c'est ça.
Pourtant, il a une maison à Marrakech.
Ça, on sait pas encore, hein, c'est pas, on n'a pas su. Hein.
Non ?
Non, je crois pas, non, je sais pas.
Vous étiez pas au courant ?
Si, mais bon...
Oui, voilà.
Voilà.
Oui, on n'est pas obligé de se souvenir de toutes les maisons qu'on a, hein. Regardez Nicole Belloubet. Hein, on lui dit, bah, vous avez une maison dans l'Aveyron. Hop, c'est vrai. Vous savez pas ce que c'est. Vous avez des apparts en location. Mais voilà, on a des fois un riad comme ça qui traîne à droite à gauche. Hein, un chalet, une maison, quoi. Alors, Patrick, il a une nouvelle maison, une maison d'arrêt, en l'occurrence. Et, il nous écoute, sans doute, depuis sa cellule. Puisqu'il
est,
on le salue, Patoche. Et, les gens ont des messages de soutien. Ils avaient mis d'ailleurs devant la mairie des livres où les gens pouvaient, comme ça, inscrire leur message. On écoute.
C'est ce que j'ai écrit ce livre, tout l'amour et toute l'amitié que je porte aux Balkany depuis tant d'années.
L'amour, carrément ?
Ah oui, je les aime beaucoup, ouais. Je les aime beaucoup.
Pourquoi alors ?
Je les aime beaucoup parce que ce sont des gens formidables.
Est-ce que c'est pas aussi quelqu'un qui trempe dans les affaires depuis un moment et que ça lui pendait au nez ?
Non, ce sont des gens qui travaillent. Mais à qui ça n'arrive pas de mal déclarer ses revenus ?
D'ailleurs, hein ? La question est posée, soyez honnête, hein, voilà, ouais, soyez honnête comme Patrick, reconnaissez-le. Vous n'avez jamais volé un carambar à l'école, peut-être? Bon, ben voilà, Patrick, il a volé l'usine à carambar, mais sur le principe, c'est la même chose. D'ailleurs, je vous parle de l'école parce qu'à Levallois, on aime Patoche à tous les âges.
J'ai 8 ans.
8 ans. Et qu'est-ce que t'as écrit sur le cahier?
Je me souviens quand, à la fête, j'avais dansé avec lui, Balkany.
T'as dansé avec Patrick Balkany?
Oui. Avec ma copine et mon copain.
Et alors du coup, tu le soutiens ?
Oui.
Est-ce qu'il a fait des bêtises ou pas, Patrick Balkany ?
Bah, papa, il m'a dit.
Il a dit quoi ?
je me souviens plus.
Ah là là là, la perte de mémoire, c'est une pathologie hein, qui touche tous les habitants de Levallois. C'est vraiment la maladie de la ville. Ils sont tous touchés par un Alzheimer fulgurant. Et c'est une maladie qui a beaucoup touché tous les membres, en règle générale, du parti Les Républicains. Il y en avait un, hier, en soutien à Patoche. C'est Roger Karoutchi, sénateur des Hauts-de-Seine.
Moi, je partage l'opinion de Sarko. Dans le malheur, on met pas le pied sur la tête des gens. Voilà.
Ouais, il est soutenu par Sarkozy, par Jean-François Copé. Il est soutenu que par des gens honnêtes, alors, c'est Patrick Balkany.
Commencez pas.
Oui. Bah, je suis comme un citoyen lambda qui est ému voilà, de tous ses soutiens. Il manque plus que celui de Bernard Madoff et d'Al Capone et on est au complet. Allez, courage Patoche, t'es en prison aux frais du contribuable. Finalement, ça te change pas trop. Et courage à tous ceux qui prônent la tolérance zéro à longueur de temps, mais qui chouinent quand elle est appliquée.
Merci Guillaume Meurice. Et vous avez kiffé, vous êtes allé deux fois ce week-end.
J'avoue, j'ai bien aimé. Voilà, j'aime bien l'ambiance.
Pardon, j'ai pas résisté à le dire. Il est allé deux fois, il leur demande. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Adèle Haenel est avec nous. Avant d'écouter Thomas Croisière nous parler du film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma qui sort en salle mercredi, abordons cet autre sujet. Les millions de femmes qui gèrent leurs règles avec une appli seront ravies d'apprendre que Facebook sait quand elles changent de tampon et quand elles ont eu un rapport sexuel. Et puisque l'application enregistre les symptômes physiques, si on veut bien lui confier évidemment, le suivi des variations d'humeur permet à Facebook de vendre ses données à des annonceurs pour qu'ils sachent à quel moment on est le plus susceptible d'acheter.
Donnez, donnez vos données, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez vos données, tout le monde à poil. Donnez, donnez vos données, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez vos données, c'est ainsi sur la toile. Un œil sur tout ce que vous faites, tout ce que vous likez. Ce que vous dites, qui vous êtes, je le sais. Je ne pense qu'à tout vous prendre, je suis comme ça. Prendre vos données pour les vendre, même hors la loi.
Frédéric Fromet qui sera avec nous vendredi. On était un petit peu sur le cul, pardonnez-moi l'expression, devant ce sujet. J'imagine que vous aussi, ça laisse un peu sans voix. Donc aujourd'hui, on peut en quelque sorte être un peu volontaire pour que notre cycle menstruel soit enregistré dans la Silicon Valley, en gros. Donc sous couvert de se rendre à un service avec une appli, on se fait cambrioler de façon très très intime quand même. Je me disais, déjà, est-ce que ça vous serait venu à l'idée d'utiliser une appli?
J'imagine que ça peut avoir, je peux comprendre l'aspect pragmatique, mais c'est un peu, enfin, bon, je veux dire ce côté cheval de Troie, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est qu'il y a quand même de nombreuses applications qui fonctionnent comme ça. Après, je suis pas une pro des applications, donc.
Mais là, ça va jusqu'à enregistrer nos cycles menstruels, donc ça nous a.
Les cycles menstruels et la dernière fois qu'on a eu un rapport sexuel. Alors que ça, par exemple, moi, ma mère, elle est pas au courant.
mais Facebook, oui.
Facebook, oui.
Mark Zuckerberg, oui.
Potentiellement.
En fait, je suis vraiment pas très très au fait, donc je suis désolée parce que j'utilise assez peu d'applications.
Alors
en fait.
c'est par méfiance, c'est-à-dire sachant que nos données ont une valeur et que vous avez pas envie de les donner, etc.
Je pense
ou c'est simplement naturellement vous utilisez pas les applis. Quoi.
C'est pas vraiment ma tendance, on va dire. Mais après, je pense qu'effectivement, justement dans les collèges ou les lycées, il y a quand même, il y a une prise en charge pour que les jeunes justement à ne se protéger sur Internet et que c'est un vrai enjeu en fait. C'est un vrai enjeu qui sache comment utiliser leurs données, parce que Internet ça peut être formidable, on peut apprendre plein de choses, etc. Mais effectivement, enfin là je dis un truc banal parce que je suis pas expert sur le sujet, mais il semble évident que
comment se fait cambrioler. Alors on a pensé au film aussi parce que c'est le premier film où moi personnellement j'ai vu un personnage qui est pris de douleurs menstruelles qui au XVIIIe siècle utilise une certaine méthode pour soulager la douleur. Vous touchez un mot de cette scène qui est pas.
Oui, alors effectivement c'est des images qui sont pas souvent représenté. Enfin, on a parlé justement du fait que voilà le film vraiment une sorte de proposition dans le courant du male gaze, du female gaze pardon, et du coup qui critique le male gaze, donc si vous voulez l'assimilation du point de vue masculin à un point de vue neutre. Donc le female gaze c'est plutôt la contestation de ça, c'est quand même un point de vue contestataire qui dit recontextualisons l'universel, en fait recontextualisons, disons que les films ont été faits par des hommes, donc ça a une conséquence sur la façon dont on va regarder les femmes. Voilà, massivement. Et donc effectivement, même sur les thèmes abordés, en fait, on peut considérer que ce thème a jamais été vraiment mis à l'honneur, peut-être parce qu'il était considéré comme pas important ou quoi, alors que on sait bien que.
Alors qu'il fait partie de notre quotidien. Voilà.
Bah c'est la moitié de l'humanité, c'est une fois par mois, donc ça
fait beaucoup. Ouais.
Oui, ça fait du moment quand même.
Vous avez dit à un garçon qui travaille avec nous dans le bureau. Qu'est-ce que vous avez dit ce matin quand on a traité du sujet? Tu serais pas là s'il y avait pas les règles, voilà.
Oui, mais il me disait oui les règles. Est-ce que c'est vraiment un sujet très intéressant? Et donc je lui. X, il n'y avait pas de règles, il n'était pas là.
On est parti bien en tête avec Juliette. 17h48 sur France Inter, revenons-en au cinéma de Thomas Croisière.
Laisse bien raisonnable de me confier cette chronique, Charline, car je ne vous cache pas que Portrait de la jeune fille en feu m'a d'abord déçu. On m'avait dit, c'est une histoire de gonzesse en feu qui aime la pipe et jouer avec de gros pinceaux, pile poil dans mes critères de recherche internet. Donc, je me préparais à le regarder d'un œil et d'une main quand je me rendis compte que c'était un film en costume. Déjà, pourquoi des costumes? Et que la seule chose qui soit à queue sur le reel, c'est le piano sur lequel Noémie Merlant tente de jouer les quatre saisons qui donnèrent leur nom à la célèbre pizza. Oui, comme il dit dans votre film, Adèle, pour être drôle, il faut être deux. Et je compte sur votre soutien. Des robes à corset, une île, un piano. On ne peut s'empêcher de penser à la leçon de piano, première palme d'or remportée par une femme en 46 festivals de Cannes, souvenez-vous. À l'époque, on entendait la musique de Michael Nyman partout. Un peu plus tard, ce fut celle d'In the Mood for Love. Vous aviez 11 ans, et moi, à la fin, rien qu'en entendant cette valse, je pouvais tuer des gens. Les violons du Wong Kar Wai furent ensuite remplacés par l'accordéon d'Amélie Poulain. Régulièrement, une bande originale s'empare d'une période et se retrouve partout. Les pubs pour les assurances, les montages de L'amour est dans le pré ou le répondeur de sa petite amie. Cette musique qui permet d'aller chercher l'émotion du spectateur en lui donnant la mesure. Votre réalisatrice, Céline Sciamma, l'utilise avec parcimonie. Non, Guillaume, ne me demandez pas avec qui, puisqu'elle joue essentiellement avec le bruit des éléments. L'eau, le vent et le feu, magnifiant ainsi la puissance de ces images terriennes, véritable tableau animé. Ces rares choix musicaux n'en ont que plus d'impact et ont bouleversé Juliette Arnault qui m'a confié, réécouté depuis en boucle, L'été de Vivaldi sur lequel vous êtes si tout. Je ne pensais pas que Juliette aimait la grande musique. Sinon, comment expliquer les deux agressions anti-Sardou de son dernier roman? Et pire, qu'elle ait choisi des paroles de Julien Clerc pour titre « Maintenant comme avant » alors que « Ne m'appelez plus jamais Rose » aurait été parfait. Comme Michel, qui a fait beaucoup pour la libération de la femme, il rêve d'être une femme dans Un voyage en absurdie, et dès 1981, il appelait de ses vœux une femme s'installant à la présidence qui de là ferait bander la France. Céline Sciamma est une femme cinéaste écrivain. Et je ne sais pas si elle est poète et mannequin, mais elle fait trembler le cinéma de papa. Déjà, parce qu'à part trois pauvres rameurs, le chef d'écho et l'ingénieur du son, Portrait de la jeune fille en feu est un film fabriqué par des femmes. Sa conférence de presse 100% féminine fut une des images marquantes du dernier festival de Cannes où il remporta le prix du scénario. Ensuite, parce que ce film est un des rares à passer le test de Bechdel. Ce test visant à mettre en évidence la sous-représentation des femmes dans une œuvre de fiction. Les règles, les hommes diront les principes, en sont simples. 1. Il doit y avoir au moins deux femmes nommées dans l'œuvre. Ici, elles s'appellent Héloïse, Marianne ou Sophie. Deux qui parlent ensemble. Et ça, elles parlent très bien d'ailleurs. Et surtout, elles se regardent. Votre film est une ode au regard, tout feu, tout femme, avec en point d'orgue cette question posée par la muse que vous êtes pour Marianne comme pour Céline. Si vous me regardez, qui je regarde moi ? Troisièmement, qui parle de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. On y parle donc d'amour. Un amour au présent qui rappelle celui de Rose et Jack dans Titanic, lui aussi tracé au fusain et nourri d'interdits, comme il rappelle l'amour saphique des brunes et blondes de Mulholland Drive. On y parle de liberté et de cette impossibilité pour les femmes de choisir leur destin et de peindre des hommes, ce qui était un moyen de les empêcher de faire de la grande peinture et entrer dans l'histoire avec un grand H comme Enel. On commence à parler d'égalité, ce sentiment qui doit être si doux à vivre, pour reprendre les mots d'Héloïse, et de choix par l'évocation ovidienne du mythe d'Orphée et Eurydice, ce choix cornélien de l'amoureux ou du poète, j'ai fait le mien. Eh bien, sachez que plus de la moitié des films produits depuis 2005 échouent à ce test. Ce n'est donc pas un hasard si sur les 59 œuvres que je vous ai conseillées l'année dernière, une seule était réalisée par une femme, et je m'en excuse. Gageons que votre film fera subtilement évoluer les choses, en tout cas en ce qui me concerne, sachez que je suis désormais prêt à considérer que les femmes sont des hommes comme les autres.
Vive le cinéma !
Merci Thomas Croisière. Vous souhaitez ajouter quelque chose à Delenel ?
Non, c'est bien.
Il a réussi à placer Michel Sardou quand
oui,
même.
Oui, évidemment.
Qui a libéré la femme.
Portrait de la jeune fille en feu, donc de Céline Sciamma, en salle mercredi. Sublime film avec Noémie Merlant, Louana Bajrami, Valéria Golino, Christelle Barras, Armande Boulanger ou Guide de la Marche. Comme ça, on a cité beaucoup. 17h53 sur France Inter, si on abordait un dernier sujet avec vous, Adèle.
Quelle étrangeté d'apprendre qu'en 2019, on a pu conseiller à Kristen Stewart de taire sa bisexualité afin de décrocher un rôle chez Marvel. Kristen Stewart s'est d'ailleurs empressée de faire l'inverse et de se balader avec sa petite amie. Le plus amusant dans tout ça, c'est qu'on sait depuis longtemps que le show business en général capitalise sur la vie privée des unes et des autres, au son des trompettes de la renommée.
Manquant à la pudeur la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication. Si je publie des noms, combien de Pénélope passeront illico pour de fiefées salopes, combien de bons amis me regarderont de travers, combien je recevrai de coups de revolver. De la renommée.
Alors Adèle, on a choisi ce sujet parce que vous avez trois points en commun avec Kristen Stewart. Vous avez une filmo impeccable toutes les deux. Vous êtes des actrices à 6 mois près du même âge et vous ne faites pas mystère ni l'une ni l'autre de votre sexualité. Ce qui n'est pas exactement une tradition à Hollywood, en France, de partout. Avant, on se doutait, on ne le disait pas, l'hétérosexualité était la norme indépassable. Sauf que voilà, ça y est. Et ce sont les filles qui se rebellent. Pourquoi c'est pas les garçons?
Déjà, c'est un peu je sais pas si c'est une affirmation, est-ce que les garçons ne se rebellent pas? Je ne sais pas.
Eh ben, alors j'ai fait des recherches.
D'accord.
Moi, si en tapant des trucs assez compliqués sur Internet.
George Clooney, gay.
Tom Cruise, gay. Will Smith, gay. C'est jamais que des rumeurs, des mecs qui disent, qui ont des filmos, qui ont du pouvoir, ne disent rien.
Bah je sais pas trop comment rebondir là-dessus. Enfin, moi j'ai pas non plus l'intention d'étaler ma vie privée. Il me semble juste qu'il y a un moment où ça devient politique. Donc c'est là où je m'arrête en fait. Je le dis parce que pour moi c'est politique de le dire, que c'est quelque chose que je pense qui peut faire du bien à pas mal de gens. Et c'est en ça que je m'engage. Après moi personnellement, partager sur ma vie privée, franchement ça c'est pas mon truc. Quoi.
Mais on est bien d'accord que là il s'agit pas que ce soit chez Kristen Stewart ou chez Ellen Page, il s'agit effectivement d'affirmer une chose tout à fait politique.
Oui.
De dire je peux jouer des filles hétérosexuelles sans en avoir la sexualité, par exemple.
Oui, effectivement. Enfin, juste de donner une visibilité, en fait. Enfin, voilà, une visibilité homosexuelle, une visibilité queer. Enfin, ça me semble important que ce soit incarné dans le paysage public, quoi. Après, je saurais pas.
Après, on compte pas sur Marvel pour le faire.
Oui, c'est ça aussi. Non, c'est parce que.
Non, mais forcément, ça va venir à un moment où ils seront bien obligés.
Oui, en fait, ça change justement parce que petit à petit, il y a des pas qui sont faits des générations précédentes, de ma génération, puis des générations à venir. Enfin, on s'aide les uns les autres, quoi, là-dedans. Mm. Et puis, j'espère que. Bon, bref, je m'arrête là, mais j'espère qu'effectivement, en fait, ça va changer et que ce sera plus une question bientôt.
Adèle et Nel, on voudrait jouer avec vous si vous êtes d'accord. On a un sketch à vous soumettre.
Alors, le thème du sketch, on a imaginé que le couple Balkany était dans une comédie populaire, exactement comme vous les aimez, Adèle, les tuches. Ouais. Alors, vous chopez le premier rôle, vous serez Isabelle, Guillaume sera le fiston et Charline, une journaliste.
Mais d'accord, ok. Bon, bah, alors, vas-y, on y va.
On découvre hein, tous en même temps.
Ok, on découvre.
Ne vous inquiétez pas. Lecture.
Maman, on fait quoi aujourd'hui?
On va prendre les devants, je vais te nommer adjoint de l'adjoint. Comme ça, si on nous fait des histoires, tu seras le nouveau maire.
Oui, et je pourrais te prendre comme adjointe?
Bah, bien entendu, il faut que ça reste en famille. Et si on nous empêche, tu prendras Edoui.
Edoui, notre caniche?
Oui, t'inquiète pas. Bon, de toute façon, depuis qu'on n'a plus le droit de détourner de l'argent, il n'y a plus rien à faire comme boulot ici.
Ok.
Mais avant tout, il faut que tu revoies les bases. Tu sais quelle est la principale mission du maire?
T'aurais un indice?
C'est de faire...
Du fric!
Voilà,
du fric,
voilà,
du, fric,
voilà.
Du fric, du fric, du fric!
Ça, c'est bien, ça, c'est bien le fils à maman, ça. Bah, oui, c'est bien le fils à maman, ça. Mais non, il faut aussi faire plaisir à ses concitoyens. Ah. Alors, tu commandes 700 mugs Bring Back Our Patrick et 200 t-shirts Balkany Mandela, même combat.
D'accord, et je les paye avec quoi?
Bon, bah, il y a un grossiste près de la mairie, on lui a trouvé des places en crèche pour ses 12 petits-enfants, il nous doit bien ça.
Maman, il y a plein de journalistes devant la maison.
Ah, génial! Alors, que faire face aux journalistes?
Je sais pas trop.
On leur donne...
Du fric! Du fric! Du fric! Du fric! Du fric!
Non. Le fric, on le garde. Ah. T'es con ou quoi? Non, mais aux journalistes, on leur donne ce qu'ils ont envie d'entendre. Vas-y, Laisse-les entrer.
T'es sûr que c'est le moment? Parce que t'es censé quand même être en arrêt maladie.
Non,
quand
t'inquiète
même.
Pas. Ouais. Bon. Je joue aussi bien la fêlure que la combattante, j'ai vu tous les films d'Adèle Haenel.
Madame Balkany, vous trouvez ça normal de reprendre l'activité de votre mari?
Ah, vous dites ça parce que je suis une femme, c'est ça?
Non.
Ah, bah bien sûr que si, vous transpirez le sexisme. Vous savez, je lui ai tout appris à mon mari, il me doit beaucoup. Moins qu'à la France, mais quand même.
Non, bah c'est surtout parce que vous avez aussi été condamnée, donc je m'interroge.
Mais que se passe-t-il? Quelles sont les étoiles qui troublent ma vision? Oh, les vertiges reprennent.
Non, mais c'est pas un peu indécent.
Indécent? De quoi? De poser des questions outrancières à une pauvre femme alors qu'elle est clairement entre la vie et la mort. Vite, Alexandre, donne-moi une chaise et un verre de santé million.
Oh là 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 là, mais vous avez fatigué maman, ça va?
C'est bon, elle s'est barrée cette poufiasse.
Ouais, ça va, ils sont tous partis là, c'est bon.
Alors, bah quoi, t'as admiré la technique?
Ouais.
Tout est dans l'interprétation. Bon, mon petit Alexandre. Ça fait une bonne demi-heure qu'on travaille là, on a bien mérité de terminer la journée avec...
Du fric
Merci infiniment Adèle Haenel, on a passé un excellent moment en votre compagnie. Autant qu'en voyant le magnifique film de Céline Sciamma qui sort en salle mercredi, Portrait de la jeune fille en feu, allez-y.